Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Comme chaque année en septembre 2010, paraît le rapport annuel de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, dont le directeur et le fondateur, Thierry de Montbrial, membre de l'Institut, est avec nous aujourd'hui à Canal Académie. Bonjour Thierry de Montbrial.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien et vous retrouvent sur notre web radio pour une chronique régulière sur l'actualité internationale avec votre confrère François Dorcival, votre confrère à l'Académie des sciences morales et politiques. Cette année, le rapport annuel de l'Institut français des relations internationales, la bien connue publication Ramsès, Ramsès 2011, offre comme d'habitude un panorama complet sur l'économie mondiale, sur les migrations, sur les États-Unis, l'Europe et sur les grands ensembles géographiques, Maghreb, Moyen-Orient, Asie, Afrique. Et ces parties, il y en a 9 au total, ces parties thématiques sont accompagnées de repères qu'on retrouve en fin d'ouvrage, des chronologies, des tableaux et des cartes qui sont spécialement conçues pour Ramsès. Elles sont suivies d'un index. Alors Thierry de Montbrial, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans la visibilité des relations internationales, les problèmes financiers semblent avoir dominé l'année 2009-2010, c'est du moins ce qui ressort de vos perspectives du nouveau Ramsès.
Oui, en fait, ces questions financières sont fondamentales et d'ailleurs le reste. Mais pour autant, il n'y a pas que ça. Par exemple, la situation au Moyen-Orient, la situation en Iran, en Afghanistan, etc. Tout cela reste très préoccupant et il se passe également beaucoup de choses en Asie de l'Est, etc., etc. Mais il est vrai que l'équilibre économique de la planète dans son ensemble est une question fondamentale qui n'est toujours pas réglée et depuis la grande crise qui a éclaté en 2007-2008. Et la question de la fixation de nouvelles gouvernances mondiales n'est d'ailleurs, au moment où nous parlons, toujours pas réglée. Le G20 s'est réuni entre-temps, très récemment, il y a une semaine environ, et n'a rien réglé du tout, même s'il y a quelques avancées. Donc, pour le moment, la question économique et financière est en effet la question dominante, d'autant plus qu'il ne faut jamais oublier que dans l'entre-deux-guerres, la situation qui a conduit à la catastrophe a été la combinaison de la dépression économique mondiale, ce qu'on appelle la Grande Dépression, et d'un certain nombre de phénomènes politiques. Mais il a fallu la conjonction des deux. Donc la situation économique globale, c'est en effet quelque chose de très important.
Et l'instabilité de l'euro dont on parle récemment beaucoup, qui est à nouveau menacée avec la crise qui secoue l'Irlande depuis septembre, depuis déjà 2009, mais surtout ça s'est accéléré depuis le mois d'octobre. Est-ce que ça va contribuer à justement faire de ces problèmes financiers quand même la préoccupation de la recherche d'équilibre?
Alors, la question de l'euro est un aspect très important d'ailleurs de la question générale. Et là aussi, le problème n'est toujours pas réglé parce que l'enjeu ici, c'est de créer au sein de l'Union européenne et plus spécifiquement au sein de la zone euro, de créer des modes de gouvernance, j'emploie toujours le mot de gouvernance, mais c'est-à-dire des modes, si vous voulez, de concertation, non seulement financière, monétaire, mais également économique, qui permettent de garantir la pérennité de cet euro. Puisque lorsque nous avons créé l'euro, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, nous n'avons pas mis en place les mécanismes de concertation économique nécessaires. Et donc, les économistes bien formés savaient bien qu'un jour ou l'autre, des problèmes se poseraient. Alors maintenant, nous y sommes. Et là encore, à l'heure où nous parlons, les questions ne sont toujours pas réglées. C'est-à-dire qu'on a mis en place des actions de pompiers, si vous voulez, pour éteindre les incendies au fur et à mesure qu'ils se présentent, mais on n'a pas encore mis en place des actions de prévention suffisantes. Ça, c'est un des grands enjeux des mois qui viennent, puisqu'il y a les partisans d'une concertation rigoureuse et les partisans d'une concertation molle, pour dire les choses d'une manière simple. Concertation rigoureuse, ça veut dire ne pas tolérer que certains pays se laissent aller, par exemple, à des déficits excessifs sans que des formes de sanctions se produisent. Alors tout cela est fort important parce que je constate aujourd'hui qu'il y a une tonalité, je dirais pas désespérée, loin de là, mais enfin on commence à entendre de plus en plus de gens très responsables qui considèrent la disparition de l'euro comme, je ne dirais évidemment pas une certitude, mais enfin comme une possibilité. Et ça, c'est un langage nouveau. Là, je reviens des États-Unis la semaine dernière, avec une réunion où il y avait des personnalités de tout premier plan de la sphère économique et financière internationale, et en particulier européenne, et j'ai été frappé par la tonalité de ce que j'ai entendu. Alors, je répète, il ne faut pas en déduire que l'euro soit condamné, je ne le crois d'ailleurs, alors nous parlons absolument pas,
mais enfin,
menacé. Il faut faire très attention, on ne va pas assez vite, si vous voulez, on ne va pas assez vite et on n'est pas assez ferme dans la mise en place de cette concertation minimale qu'on appelle en effet la gouvernance.
Alors vous avez placé le rapport Ramsès 2011 sous le titre « Un monde post-américain ». Alors, est-ce à dire que l'hyperpuissance américaine est en perte de vitesse ? Qu'est-ce que vous entendez exactement par cette expression ?
Bon, comme tous les titres de livres, on fera des phrases un peu choc. Ce qui est clair, c'est que nous sommes rentrés, on en a parlé d'ailleurs, je crois, dans cette émission l'an dernier, dans un monde multipolaire, hétérogène et global, hein, sur les trois adjectifs par lesquels je caractérise le monde actuel. Les États-Unis, aujourd'hui, sont en déclin relatif. Je dis bien relatif. La notion de déclin, d'ailleurs, est toujours une notion relative. Savoir ce qui se passera dans les 10, 20 ou 30 ans nous amènerait à réfléchir sur notamment l'évolution de l'Asie, de la Chine, etc., etc. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis sont, disons, affaiblis, si vous voulez un autre mot, par rapport à leurs grands partenaires. Et on voit également apparaître de nouveaux partenaires qui pèsent, pas seulement sur le plan économique, mais également sur le plan politique. Un des grands événements de l'année examiné dans ce Ramsès, à mon avis, c'est l'affirmation à cet égard de pays comme le Brésil et la Turquie, qui ont pris des positions politiques extrêmement fortes et des positions qui ne pouvaient pas faire plaisir aux États-Unis. Et il faut bien voir aussi que les États-Unis sont affaiblis de l'intérieur. Et du reste, là encore, depuis la sortie de ce Ramsès, il vient d'y avoir, là aussi c'est tout récent, ça fait une quinzaine de jours, il vient d'y avoir ce qu'on appelle les midterm elections, les élections de mi-mandat aux États-Unis, où le président Obama a subi une défaite de dimension historique. Et je faisais allusion à mon bref séjour aux États-Unis de la semaine dernière. Et j'ai pu constater là aussi le grand pessimisme, parce que les Américains sont pessimistes aujourd'hui. Or, le peuple américain n'est pas pessimiste par nature. Donc, c'est un événement important. Donc, les États-Unis, actuellement, sont affaiblis.
Ils sont affaiblis. Pourtant, au dernier sommet de l'OTAN, ils sont apparus comme toujours une force importante. Et surtout, ils ont su rassembler et faire aboutir un compromis entre l'Allemagne et la France dans cette nouvelle alliance militaire revue, recorrigée. Maintenant qu'il n'y a plus de guerre froide.
Oui, enfin, d'abord, les États-Unis restent non seulement une très grande puissance, mais la première puissance mondiale est
d'accord,
de loin.
D'accord, donc on est loin du titre, alors.
Non, le titre fait allusion à la situation, aux illusions qui étaient consécutives à l'effondrement de l'Union soviétique, d'un monde dominé par une seule puissance, hyperpuissance, etc. Aujourd'hui, les États-Unis ne dominent plus le monde. C'est ça la question importante. Ils ne dominent d'ailleurs même pas l'OTAN, puisque vous parlez du sommet de l'OTAN. Mais enfin, ils sont bien évidemment la première puissance de l'OTAN. Alors, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'ils ont fait aboutir, par exemple, un accord entre la France et l'Allemagne. Cet accord entre la France et l'Allemagne, il était préalable.
Il était préalable.
Et en réalité, comme toujours d'ailleurs, ou comme souvent dans ce genre de réunion, l'essentiel des dispositions qui sont prises dans le communiqué final a été réglé d'avance. Et un autre point qui est important, c'est la question, enfin les deux points importants d'ailleurs, c'est la complémentarité de la dissuasion nucléaire et de la mise en place progressivement d'ailleurs d'un système de défense antimissile, ce qui est en effet un point très important. Et puis la reconnaissance des nouvelles fonctions de l'OTAN dans un monde qui effectivement n'a plus rien à faire, n'a plus rien à voir avec le monde bipolaire d'autrefois. Et ceci se traduit par des formes de coopération avec la Russie qui montrent que pour la première fois, l'OTAN dit clairement que la Russie n'est pas l'adversaire désigné. Et ça, c'est un point évidemment tout à fait essentiel.
Alors vous avez pointé dans ce Ramsès 2011 l'émergence d'une nouvelle ligne, je ne sais pas si c'est le terme est consacré, mais d'une nouvelle forme de politique de non-alignement, en particulier de pays que vous avez cité au début de notre entretien, là, ce qu'on appelle les BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Et vous avez même, vous pensez même y adjoindre la Turquie. Alors qu'est-ce qui fait le point commun de ce groupe d'États ?
Le point commun de ce groupe d'États qui sont extrêmement différents les uns des autres. Il faudrait analyser les géants comme la Chine et l'Inde, les pays comparables en population, par exemple, comme le Brésil et la Russie, en ordre de grandeur, hein, parce que le Brésil est beaucoup plus peuplé que la Russie, etc. Donc il y a plein de distinctions qui sont à introduire. Mais ce que ces pays-là ont en commun, c'est qu'ils sont tous maintenant des puissances économiques significatives et que tous entendent peser par eux-mêmes sur certaines questions internationales. Et ça, c'est en effet nouveau, c'est-à-dire qu'ils entendent penser par eux-mêmes. J'ai envie de dire qu'ils sont gaullistes. Ce sont des pays qui se comportent aujourd'hui comme la France voulait se comporter à l'époque du général de Gaulle. Donc c'est quelque chose en effet très nouveau. Alors ça se traduit particulièrement, ou ça s'est traduit particulièrement dans la période sous revue dans ce Ramsès, c'est-à-dire la période 2009-2010, ça s'est traduit surtout au Moyen-Orient. Ce qui est très frappant, c'est la démarche commune que le Brésil de Lula et la Turquie de Erdogan, le parti islamique ou islamiste dans le bon sens du terme d'ailleurs, au pouvoir, leur démarche commune à Téhéran, n'est-ce pas, pour essayer de rapprocher les points de vue. Donc là, je crois qu'il y a un événement, en effet, ou en tout cas une manière de conduire la politique internationale qui est tout à fait nouvelle et qu'il faut suivre de très près.
L'Europe s'organise aussi sur le plan international. On n'en a pas parlé tout à l'heure, je voudrais juste revenir dessus. Sur le SEAE, sur le Service européen pour l'action extérieure, comment vous voyez cette nouvelle évolution ?
La construction européenne, il ne faut jamais oublier que c'est une construction très lente, même si, d'un point de vue historique, on peut considérer que ce qui a été fait en à peine plus de 50 ans est tout à fait remarquable, mais les gens très pressés peuvent considérer qu'on ne va pas assez vite. C'est toujours la question de la bouteille, à moitié vide ou à moitié pleine. Mais malgré tout, il faut retenir qu'à l'échelle, disons, de la vie humaine ou à l'échelle de l'expérience humaine, c'est une construction lente. Par conséquent, la construction d'un service européen d'action extérieure, il ne faut pas s'attendre à ce que ça bouleverse les pratiques de la politique ou des politiques étrangères européenne du jour au lendemain. L'Union européenne reste encore une association d'États qui sont tous indépendants à bien des égards et qui mettent en commun une partie de leur souveraineté, mais qui conservent leur souveraineté. Il ne faut jamais oublier ça. Les Français, en particulier les trois plus importants d'entre eux, de ces pays, c'est-à-dire l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, entendent parfaitement conserver leur souveraineté. Donc on va avoir probablement dans les années qui viennent de plus en plus un mélange assez intéressant d'ailleurs de politique nationale, de politique étrangère nationale et en même temps de concertation, espérons-le, de plus en plus étroite. Non seulement entre ces trois pays, mais également les autres, parce que ce qu'on appelle les petits pays, entre guillemets, supportent très difficilement que certains d'entre eux pèsent ou plus ou parlent plus fort qu'eux, si vous voulez. Donc tout ça, c'est une situation délicate. Mais enfin, disons que de mon point de vue, la politique étrangère de l'Europe, c'est une expression prématurée. Il n'y a pas véritablement de politique étrangère de l'Europe. Ce qu'il y a, en revanche, c'est un rapprochement des politiques étrangères de l'Europe, des Européens. Et ce rapprochement, sans doute, s'approfondira dans les années qui viennent. Et le nouveau service d'action extérieure y contribuera.
L'autre événement capital de l'histoire européenne en marche, selon vous, c'est l'élection en Ukraine de Viktor Yanukovych, qui est un événement que vous dites trop occulté dans la presse française ou autre. Enfin, c'est un événement qu'on a minimisé. Alors, qu'est-ce que vous percevez dans cet événement électoral, vu que l'Ukraine est en demande ?
Le point important sur le plan géopolitique, c'est que l'Ukraine occupe une position charnière, une position extrêmement importante, disons, entre l'Europe, justement entre l'Union européenne et l'Europe de l'Est au sens ancien du terme, c'est-à-dire finalement le monde russe. Et cette position est absolument essentielle. Et après la chute de l'Union soviétique, donc après 1989-91, on a vu dans les pays occidentaux, on a vu une vague un peu idéologique consistant à vouloir pousser, à encourager un peu à marche forcée ceux qui en Ukraine sont partisans justement de l'appartenance à l'Union européenne et d'un rattachement à l'OTAN. Et en fait, il était tout à fait clair que cette intrusion un peu forte des pays occidentaux, un très fort caractère idéologique d'ailleurs, ne pouvait que susciter des réactions extrêmement virulentes de la part de la Russie qui se sentait agressée. Et ce qu'il faut bien voir derrière tout ça, c'est que l'Ukraine est un ensemble lui-même extrêmement hétérogène. Et c'est un ensemble fragile sur le plan, disons, ethnique et culturel, et avec des frontières à certains égards incertaines. Alors, l'élection de Yanukovych est importante parce que Yanukovych était le candidat malheureux contre le premier président issu justement de la Révolution Orange.
Dont on a beaucoup parlé.
Le fameux Yushchenko, dont on a beaucoup parlé, qui était le chouchou, si vous voulez, de l'Occident. Et Yanukovych était vu comme un épouvantable repoussoir pro-russe, etc., etc., etc. Et le fait, par conséquent, que ce Yanukovych ait été élu, alors même qu'il représente justement des tendances qui sont plutôt sympathisantes à l'égard de la Russie, sans pour autant être hostile à l'égard de l'Union européenne, est un événement très important. Alors, en réalité, si vous voulez, quand on regarde les choses avec une certaine distance et sans esprit de passion, Ce qu'on constate, c'est que l'Ukraine est en train de se positionner d'une manière équilibrée entre l'Est et l'Ouest. Et je pense personnellement que c'est une bonne nouvelle parce que ça la calme justement les enjeux idéologiques, les rivalités qui étaient devenues excessives et extrêmement dangereuses. Et donc je pense que ce qui est en train de se passer actuellement en Ukraine va plutôt dans le sens de la stabilisation de l'Europe.
D'un bon rapport avec la Russie aussi, vous pensez qu'elle
bon
peut jouer
bien sûr.
Qu'elle a une position intermédiaire entre les grands, je voulais dire bloc, mais non, c'est, on peut
non,
plus
y
parler
plus,
comme
y
ça.
Il n'y a plus de bloc.
Entre la Russie et l'Union européenne. Vous concluez votre analyse justement sur cette idée que s'achève un cycle de 5 siècles où les Européens ont largement dominé le monde et les Occidentaux après, puisque c'est comme ça qu'on les a dénommés. Sur quoi vous fondez cette réflexion ?
Sur le fait de pas que toute l'histoire du monde depuis, disons, ce qu'on appelle les temps modernes, est en effet dominée par l'Europe. Et l'Europe a très largement contribué à son recul avec les guerres fratricides du XXe siècle. On a beaucoup parlé d'ailleurs de la guerre civile européenne à cet égard. Et les États-Unis ont donc accédé à la suprématie, ce qui nous ramène d'ailleurs au début de notre conversation, à la faveur de ce suicide, si vous voulez, ou de cette guerre civile européenne. Et maintenant, ce que l'on voit, à l'évidence, c'est l'émergence de l'Asie, qui d'ailleurs avait été prédite par beaucoup de gens et depuis fort longtemps. Mais enfin, maintenant, on y est. Et il est tout à fait vraisemblable que l'Asie va devenir la région dominante pour le XXIe siècle. Alors bien sûr, il peut se passer beaucoup de choses, il peut y avoir des accidents de parcours, etc. Mais disons que l'idée que le monde soit dominé sur le plan économique et au bout du compte, peut-être sur le plan politique, par l'Asie, et particulièrement par l'Asie de l'Est, est devenue une possibilité. Et ça, c'est une perspective à laquelle nous sommes tous, les Occidentaux, qu'il s'agisse des Américains ou des Européens, aussi peu préparés que possible. Nous ne sommes absolument pas préparés psychologiquement à une telle situation. Alors, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain. Je veux dire par là que la suprématie éventuelle chinoise ne va pas s'imposer, on ne va pas se réveiller brusquement avec une Chine devenue puissance dominante. Mais il est bon de regarder toute l'histoire des États-Unis et de l'Europe depuis, disons, la fin de la guerre de sécession, en gros, toute la période qui va de la guerre de sécession jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est cette période-là qu'il faut avoir à l'esprit, le déclin de la Grande-Bretagne, auquel on a tendance à comparer de plus en plus l'évolution possible des États-Unis, est un phénomène qui s'est étalé sur plusieurs décennies, hein, qui a commencé comme vers la fin du XIXe siècle, dans la foulée de ce qui s'est passé, comme je viens de le dire, avec la guerre de sécession, et qui s'est poursuivi avec la dévaluation de la livre sterling en 1931, et finalement la Seconde Guerre mondiale et ce qui s'en est suivi.
Pour vous, quelles sont les menaces les plus graves en ce moment ?
La situation internationale dans son ensemble est extrêmement différente de celle que nous avons connue dans la période dite de la guerre froide, où finalement les choses étaient relativement faciles à décrire. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus diffus. En réalité, nous avons un monde de plus en plus interdépendant en raison de la mondialisation. C'est la définition même de la mondialisation, hein. Une interdépendance à un degré sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Cette interdépendance fait qu'aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, le moindre événement quelque part peut avoir des répercussions inattendues ailleurs. Mais en même temps, c'est un monde extrêmement peu coordonné. Et donc, le risque, c'est qu'à partir d'un dérapage quelque part, le monde entier se trouve impliqué dans des comportements de fuite. Et ceci peut se produire sur le plan économique, nous en avons parlé au début de cet entretien, et peut se produire aussi sur le plan politique. De ce point de vue-là, je crois qu'une des régions incontestablement les plus sensibles de la planète demeure le Moyen-Orient au sens large, le Grand Moyen-Orient. Et la conjonction, si vous voulez, des difficultés économiques et des difficultés politiques, comme toujours dans l'histoire, particulièrement dans l'histoire de l'entre-deux-guerres, peut être extrêmement préoccupante. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas de problème plus important aujourd'hui que celui du renforcement de la gouvernance non seulement européenne, mais mondiale dans son ensemble.
Y compris pour régler des problèmes tels que les conflits du Moyen-Orient ?
Les conflits du Moyen-Orient ne peuvent pas être réglés uniquement par les Occidentaux. Prenez par exemple la question israélo-palestinienne. Cette question qui est extrêmement occidentale, qui est perçue d'une façon extrêmement occidentale en raison de l'histoire européenne et de rapport de l'Europe, rapport historique de l'Europe avec le monde arabe et le monde islamique, cette question en réalité intéresse le monde entier. Pourquoi est-ce qu'elle intéresse le monde entier? Entre autres à cause des ressources, parce que nous avons là des concentrations de ressources absolument majeures. Donc je ne conçois pas que des pays comme le Brésil, déjà mentionné, ou à l'autre extrémité la Chine ou les pays d'Asie se désintéressent indéfiniment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Sans parler naturellement de l'Iran, de l'Irak, etc., etc. Et là, si nous n'y prenons garde, il peut y avoir des chocs extrêmement rudes parce que les manières d'appréhender ces sujets peuvent être extrêmement différentes, n'est-ce pas, d'une région à l'autre. Donc je crois en effet qu'il y a des zones, celle-là est probablement la zone majeure, qui sont extrêmement dangereuses pour l'évolution d'un monde. Il y en a d'autres, hein. Par exemple, je mentionne aussi le Cachemire, c'est-à-dire la question du rapport entre l'Inde et le Pakistan est une question absolument majeure et qui d'ailleurs a des répercussions sur l'Iran, sur l'Afghanistan et sur l'Iran, ce qui établit la jonction avec le Grand Moyen-Orient auquel je faisais allusion. Donc oui, il y a un certain nombre de zones qui sont relativement bien identifiées et où une meilleure gouvernance mondiale, c'est-à-dire une meilleure coopération internationale, est plus que nécessaire.
Parmi ces grandes aires avec lesquelles la coopération doit se mettre en place assez rapidement, c'est le Moyen-Orient ou le Maghreb ou d'autres régions? Quelle est la région du monde qui vous paraît celle sur laquelle il doit y avoir le plus d'accords et de coopération?
La densité de problèmes au Moyen-Orient au sens large est évidemment énorme. Le problème du Maghreb est un problème dérivé. Maintenant, aujourd'hui, on commence évidemment, le Maghreb ou le Sahel, on commence à s'en inquiéter davantage en raison de l'extension du terrorisme, disons, dans cette partie du monde, dans cette partie de l'Afrique. Mais ça fait partie du même problème global, si vous voulez, qui est le problème du Grand Moyen-Orient dans son ensemble. Donc, ce qui se passe au Sahel et qui affecte nos compatriotes n'est qu'une petite partie d'un tout.
Merci Thierry Mondrial.
Merci.